Passerelle des Arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.
Bonjour, je suis Jacques Rougerie, architecte, océanographe. Je suis académicien à l'Académie des Beaux-Arts avec Jean-Michel Autoniel, qui est sculpteur dans la section, en ce qui me concerne, l'architecture. Et nous sommes aujourd'hui pour échanger sur ces grands thèmes qui vont accompagner les explorations de demain, le monde de l'art dans l'espace et le monde de l'art sous la mer. Et nous avons donc décerné à Jérémy Gobet, nous avons donc décerné le prix de l'art sous la mer, le prix international de l'art sous la mer de ma fondation. Voilà, donc nous allons accueillir Jérémy et pour parler justement de cette vocation qui vous a amené à nous créer des sculptures, un monde imaginaire. Qu'est-ce que la mer a représenté pour vous dans cette création ?
Déjà, merci à nouveau pour cette immense reconnaissance qu'est le prix de la Fondation de la Crougerie. Également, merci pour le prix de la sculpture Pierre Cardin. C'était vraiment deux nouvelles assez extraordinaires. Et donc, merci encore à vous et à l'Académie. C'est toujours difficile de tirer les fils un peu de l'histoire, mais déjà, j'ai la moitié de ma famille qui est bretonne. Donc j'ai connu la mer depuis l'enfance. Après, je dirais que c'est pas la mer en elle-même qui m'inspire. C'est plutôt,
je crois que ça a vraiment été le corail. En fait,
La mer c'est le corail.
Ouais.
Et justement, c'est ce qui m'a frappé en ce qui me concerne. Bon, Jean-Michel nous dira ce qui l'a frappé, ce qui l'a intéressé à travers ce projet que vous nous avez montré, que vous nous avez soumis. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette relation, cette narration entre un tissage et le corail, justement. C'est-à-dire que la nature, manifestement, vous a inspiré dans cet art. Et on le voit à travers tout votre parcours. On sent que l'océan, à travers le corail, peut-être, toute la structure du corail vous inspire énormément dans vos différentes sculptures.
Oui, en fait, le corail, symboliquement, c'est qui réunit vraiment tout ce qui est formidable pour moi dans la nature. En fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur artiste que la nature. Ce qui m'a frappé dans le corail, c'est qu'au début, quand j'ai vu pour la première fois des squelettes de coraux, que j'ai trouvé par hasard un jour à Emmaüs, c'est qu'ils étaient pour moi magnifiques. C'est vraiment d'abord une approche esthétique, vraiment un choc esthétique. Et ensuite, c'est en apprenant plus, j'ai compris que ces formes avaient une fonction. Et d'arriver à allier à ce point esthétique et fonction, en fait, c'est ça qui m'a frappé. C'est pas du design, c'est pas de l'architecture, c'est de la création pure, c'est de la vie. Et en créant la vie, la nature fait des formes extraordinaires. Et c'est cette alliance-là où je me suis dit, ça a beaucoup résonné en moi dans l'idée d'une approche un peu systémique, c'est-à-dire de ne pas mettre d'un côté l'esthétique, de l'autre côté la fonction, l'intelligence, le bon sens et le ravissement de l'œil, c'est qu'on peut réunir ces différents éléments en une seule œuvre. Et voilà, le corail, c'est un peu pour moi symbolique de la mer, mais voilà, la mer, la nature, c'est vraiment tout ça. C'est que je me dis, j'ai l'impression qu'on ne crée pas d'écosystème assez dans la création artistique. Moi, j'ai vraiment envie de m'inspirer vraiment de la nature dans cette vision un peu systémique des choses et vraiment de se dire que les différents domaines de la vie peuvent se réunir autour de la création. Moi, je vois vraiment la création comme un liant entre les différents domaines. Et c'est vraiment ça un peu ce qui est symbolique pour moi dans le corail.
Jean-Michel.
Oui, enfin, ce qui a poussé l'Académie à vous encourager dans vos nouveaux projets. D'abord, le prix Pierre Cardin, qui est, comme Jacques Rougerie, un grand inventeur, quelqu'un qui a une vision comme ça du futur très optimiste et assez joyeuse, je peux me permettre de le dire. Je pense que ces prix-là, c'est pas pour rien qu'on vous a décernés, parce que, justement, dans votre projet Corail Artefact, donc c'est ce projet donc, de, d'utiliser la dentelle pour faire renaître des coraux. Enfin, je réduis le projet.
Le tissage même de la dentelle est en forme de corail. Hein. C'est des coraux. En réalité, quand on regarde la dentelle, le support que vous prenez, c'est exactement la structure même du corail.
Oui, c'est assez frappant. Ouais.
Oui, ouais. C'est ce point donc, d'esprit que vous avez trouvé dans la dentelle du puits, que je connais bien parce que j'ai moi-même travaillé au puits avec les dentelières, donc je connais ce point-là et ça m'a beaucoup amusé de le retrouver dans votre travail. Je pense qu'il a... C'est pas pour rien parce que justement, je pense que le travail de la main aussi est un travail qui est lié à une régularité, notamment la dentelle du puits qui est faite avec ses aiguilles et donc du coup qui nécessite une construction presque mathématique, populaire, mais mathématique. Et je trouve que le fait d'avoir... remis ce point dans la nature a amené quelque chose d'assez nouveau. Donc là, moi, je suis très curieux de savoir que devient ce projet Corail Artefact, où on en est. Est-ce qu'il a vraiment trouvé une place dans la vraie vie? Est-ce qu'il déjà il est placé sur des coraux? Est-ce que
ça intéresse énormément de biologistes, hein, d'océanographes à Monaco, par exemple. Ils sont très intéressés par cette expérience. Et puis en même temps, ça nous accompagne. Bon, moi, je me définis comme un mérien, c'est-à-dire un homme du monde sous-marin. Et donc, dans ces expériences d'habitat sous la mer, on a besoin d'être accompagné par des artistes, on a besoin d'être accompagné par des biologistes. Et donc, c'est cette synthèse qui m'intéresse entre l'artiste et le scientifique. Voilà pour cet accompagnement de ces mondes nouveaux. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, avec la Fondation, que nous décernons et nous tenons à ce que les artistes nous accompagnent de différents secteurs, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit la poésie, que ce soit la musique. Il faut accompagner ces mondes nouveaux. D'ailleurs, Thomas Pesquet se fait accompagner à travers la sculpture ou la musique lui-même. Il joue du saxo dans l'espace. Et bien, il faut accompagner ces deux mondes qui s'ouvrent à l'humanité.
Ce que je trouve très intéressant dans ce projet donc, que vous avez développé, c'est qu'en fin de compte, l'œuvre est destinée à s'effacer. C'est-à-dire qu'elle est destinée à disparaître.
Là, non. Oui.
Donc
oui,
là, oui, je trouve qu'il y a une grande humilité.
C'est ça qui est touchant.
Par rapport à l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce n'est pas mettre une œuvre d'art sous la mer qu'on va aller visiter, comme beaucoup d'artistes ont pu le faire. Et où moi, j'accroche moins à cette approche de l'art sous la mer avec créer un musée sous la mer. C'est là où vous présentez des œuvres éphémères qui sont destinées à être remplacées par le corail. Et je trouve qu'il y a là, il y a une vraie synergie qui est intéressante entre la science, l'art et la nature.
Je dirais même, en fait, pour moi, la vraie œuvre, c'est le projet en lui-même. En fait, ça a toujours été un peu comme ça dans mon travail, c'est-à-dire que la vraie création, pour moi, c'est le langage commun que j'arrive à créer avec des gens qui ne sont pas du domaine de l'art. En fait, pour moi, la création, elle est là. Et en fait, les œuvres plastiques, c'est comme des totems, un peu des témoins. C'est vraiment ça l'idée. Et je rebondis sur ce que vous disiez aussi sur le lien avec les mathématiques. En fait, ce projet, pour moi, la philosophie, elle est très mathématique dans le sens, c'est un peu la philosophie, c'est moins par moins fait plus. C'est-à-dire de réunir différents domaines qui ont chacun des problèmes. Là, par exemple, les savoir-faire qui sont oubliés ou qui n'arrivent pas à se réancrer dans la société contemporaine, le corail qui est en train de se disparaître. Et ben, en réunissant les deux, on crée une solution commune à ces enjeux. Et du coup, on arrive à sauver à la fois un savoir-faire, une industrie et tout ce que socialement ça implique, et aussi un élément du vivant. Moi, c'est vraiment un peu ça dans l'idée de l'approche du projet, c'est vraiment d'arriver à créer une solution à plusieurs problèmes en même temps. Et aussi, du coup, je rebondis aussi sur la question que vous posiez sur où en est un peu le projet, oui, et ce qu'il devient. En fait, si vous voulez, il y a eu toute une phase au départ qui a été de mise en place du projet et de validation de cette hypothèse. En fait, entre 2018 et fin 2019, on a pris la dentelle traditionnelle en coton du puits envelé et on l'a mis en contact avec du corail. Boutures, larves et tout ça. On a vu que ce support, il pouvait permettre le développement de corail, mais qu'il fallait continuer à l'améliorer. Et en fait, moi, depuis le début du projet, ce que je pense, c'est que la dentelle traditionnelle est une base, mais ce que je veux créer, c'est ce que j'appelle une dentelle 2.0, avec des matériaux nouveaux, des biopolymères, etc., et en intégrant des molécules et des éléments dans cette dentelle pour le rendre aussi efficace comme support que les supports plastiques, béton, utilisés habituellement. Donc fin 2019, on a validé l'hypothèse de base, et là, depuis, en fait, on a travaillé à des nouveaux prototypes, et ces nouveaux prototypes ils sont arrivés en Guadeloupe, C'est là où on fait nos tests. On va les tester encore en aquarium, mais cette fois en aquarium extérieur, donc qui reproduit bien les conditions du vivant. Et si tout va bien, et si le Covid nous laisse un petit peu tranquille et si on arrive à le faire, on va faire nos premiers tests in situ, toujours en Guadeloupe, fin août. Parce qu'en fait, la ponte des coraux est annuelle là-bas. Et cette ponte, elle est normalement fin du mois d'août. Donc ça, ce sera nos tests, premiers tests in situ. Et en parallèle, en fait, quand il y a Artefact, l'idée, c'est de développer une solution pour chacun des enjeux liés aux coraux. Toujours en alliant l'art et les différents domaines. Donc il y a la dentelle, ça c'est pour régénérer les récifs qui sont en danger. Mais il y a aussi des récifs qui n'existent plus à cause de la pêche à la dynamite ou du BTP. Donc là, moi je suis en train de créer ce que j'appelle un béton écologique. Donc c'est une matière complètement nouvelle, entièrement écologique pour reconstruire des récifs. Et il y a aussi toute une action anti-plastique, parce qu'on ne le sait pas trop, mais le plastique tue aussi les coraux. Donc là, on est en train de développer une matière totalement écologique qui peut remplacer le plastique et d'en faire des objets, des contenants de tous les jours et des œuvres. Moi, maintenant, toutes mes œuvres, je les prototype avec cette matière, donc pour que même dans ma création artistique, tout soit entièrement écologique de A à Z. Et on a une dernière partie qui est extrêmement importante, c'est toute la partie éducation et médiation. Alors évidemment, il y a des œuvres et des expositions, mais on fait aussi beaucoup d'actions envers les enfants. Fait beaucoup de pédagogie, moi je vais voir aussi des enfants, donc ça passe par l'art, mais on leur fait faire aussi, par exemple, là on a commencé à faire, depuis l'année dernière, on a commencé à faire une barrière de corail en tricot aux enfants, donc ça devient vraiment une installation presque monumentale, et donc comme ça ils apprennent à la fois le corail et à la fois le savoir-faire. Et c'est devenu, ce projet je l'ai appelé enfant ambassadeur, parce que l'idée c'est que ces enfants, bah, ils deviennent vraiment ambassadeurs de la mer, ambassadeurs du corail. Donc c'est vraiment,
très, très belle initiative.
Voilà, c'est vraiment devenu un projet un peu systémique, global, et on essaie de réfléchir à tous les niveaux. On réfléchit aussi au milieu de l'art. Par exemple, mon associé dans le projet qui s'appelle Claire Durand-Ruel, qui est une grande collectionneuse, l'idée, ça a été de dire comment les artistes et les collectionneurs peuvent finalement arrêter un peu ce système achat, vente, cote, etc., et travailler main dans la main pour un projet. Donc voilà, on essaie vraiment de réfléchir à tous les niveaux de la société. C'est vraiment un projet politique au sens premier du terme, sans clivage, etc. C'est vraiment un peu res publica, quoi. C'est vraiment la chose du peuple, essayer de faire un projet de citoyen.
C'est cette utopie qu'on souhaite réaliser qui nous a motivés dans la remise des prix. Et c'est une utopie que je vois aussi dans votre travail, Jacques. Il y a cette idée, comment aller réaliser une utopie, concrétiser des rêves. C'est quand même tout. Là, j'ai vu dans la magnifique revue Architecture d'aujourd'hui que vous m'avez donné.
C'est gentil.
C'est
entraîné les jeunes, justement, à avoir cette utopie, ce regard sur le futur. Comme on aime dire à la Fondation, c'est bâtir le futur, que vous nous bâtissiez le futur, que vous y croyez avec audace et passion. C'est toujours notre motif.
Ce qui est intéressant, moi, c'est là où je suis content de vous rencontrer, c'est que je me rends compte que c'est vraiment ce parcours qui fait œuvre chez vous, plus que l'objet, en fin de compte. L'idée, c'est vraiment cet engagement, ce parcours. Et je crois que Corail Artefact, donc comme vous l'avez appelé, c'est vraiment... ce projet-là que nous avons aimé et que nous voulons aider à
se développer,
à se développer.
Et à le faire connaître, à le partager, comme vous l'avez très bien dit. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit justement que vous vouliez le faire partager à des jeunes pour qu'eux-mêmes ils bâtissent, ils tissent eux-mêmes leur histoire et leur rapport à la nature, leur rapport à la mer. Alors ça m'amène à vous poser juste une question, mais Jean-Michel vous posera aussi une question, je pense. Toute simple, est-ce que vous êtes plongeur? Est-ce que vous mettez la tête sous l'eau? Qu'est-ce que représente ce monde sous-marin pour vous?
C'est drôle parce qu'on me la pose régulièrement cette question.
Oui.
Non, je ne suis pas plongeur, je nage très mal en plus. Et ça,
c'est pas trop grave. Moi, j'aime pas nager parce qu'on a l'impression d'être un canard, alors que quand on est dans l'espace de la troisième dimension sous la mer, on a une autre approche de ce monde. Et c'est vrai que. Enfin, je vous engage à plonger, je vous amène plonger si vous voulez. Vous allez me faire rêver, continuer à me faire rêver à travers ce que vous faites parce que vraiment, bravo.
Merci. Mais en tout cas, c'est une question qui est importante, je pense, parce que je pense que les artistes qu'on a bien en commun, c'est une capacité de projection. Et c'est vrai que moi, ce qui me fascine un peu dans la mer, c'est que c'est encore un territoire qui est à découvrir. et un peu comme une nouvelle planète. Et ce qui est beau, c'est que les artistes ont souvent été utilisés pour mettre en image des choses qu'on ne pouvait pas observer avec l'œil, comme les trous noirs, etc.,
ces phénomènes-là. Ouais. Mais c'est cette troisième dimension que représente le monde sous-marin. Exactement. C'est-à-dire que votre corps, votre imaginaire, se promène dans une troisième dimension. Ouais. Sur Terre, vous avez la ligne d'horizon, vous percevez une sculpture très souvent qui repose sur un socle ou qui repose sur la Terre. Là, vous pouvez imaginer en trois dimensions cet espace à travers votre création. Ouais. Et c'est ce qui me fascine personnellement.
Oui, ben, moi, ma question, enfin, qui est un peu une conclusion, c'est ce rapport justement à l'émerveillement que procure la nature. Et donc, vous parliez de l'immersion en plongée. C'est vrai que c'est un monde où on ne peut être que face à cette idée d'émerveillement. J'ai vu aussi que vous aviez vécu et exposé un peu à Miami et en Floride. Donc ça, c'est vrai que c'est un pays où... Enfin, un endroit du monde où la nature est tellement forte et amène à un regard comme ça d'osmose avec la nature. Moi, c'est ce que je vous souhaite et que c'est arriver à retransmettre ce regard sur d'émerveillement sur le monde. Je crois que c'est important.
En tout cas, c'est l'un des buts que j'ai dans le projet. C'est si un jour je peux me dire que j'ai inspiré en tout cas des jeunes artistes ou des gens à créer, en tout cas ça serait une belle récompense. Et je pense que inspirer c'est aussi par quelque chose de positif. Je pense qu'on a une image peut-être un peu de l'artiste torturé, seul, esselé un peu dans son atelier, et je pense qu'on peut essayer de proposer un autre modèle d'inspiration qui est vraiment plutôt vers la lumière que vers l'obscurité, et vraiment d'inspirer les gens.
Ben merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.
Passerelle des Arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.